La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour le numéro de rentrée de la mêlée de l'info, le 199e. Pour cette émission de reprise, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Casal, enseignant, coordinateur du parti Génération pour la Haute-Garonne, Pierre Esplugas, universitaire, professeur de droit public, adjoint maire de Toulouse, membre du parti Les Républicains, et Laurent Esquenet-Gox, ex-député de la Haute-Garonne, président du Modem 31. Bienvenue aussi à tous les trois et merci d'être fidèles à la mêlée de l'info en cette période de rentrée qui, on le savait, s'annonçait agitée sur le plan politique et social. Et comme on pouvait s'y attendre, l'Assemblée nationale a rejeté lundi le vote de confiance qu'avait sollicité François Bayrou pour lui et son gouvernement, l'obligeant à démissionner moins de 9 mois après sa prise de fonction à Matignon. Emmanuel Macron a donc été contraint de nommer un troisième Premier ministre en à peine un an et il a rapidement porté son choix sur Sébastien Lecornu, fidèle d'entre les fidèles du chef de l'État depuis 2017. La célérité du président de la République m'amène à vous poser deux questions en même temps, sans faire de mauvais jeu de mots. Quel bilan tirez-vous des 9 mois de gouvernement de François Bayrou et que vous inspire la nomination de Sébastien Lecornu pour le remplacer? Nous allons commencer avec Laurent Esquenet-Gox, membre du parti de l'ancien Premier ministre, qui va donc répondre le premier.
Merci, bonjour à toutes et à tous. On entend beaucoup de choses négatives, je vais essayer de dire des choses positives. Le gouvernement Bayrou aura quand même tenu 3 fois plus longtemps que le gouvernement Barnier, on peut le mettre à son crédit. Il a su composer pendant presque un an avec une assemblée très morcelée, une assemblée nationale, et d'où n'émerge aucune majorité. Et il a même résisté à 10 motions de censure. On savait que le moment du budget en octobre allait être très difficile. Et sans doute François Bayrou a décidé d'enjamber l'obstacle, si on veut dire. Mais il a aussi pu dire quelques vérités sur la situation de notre pays, et notamment en matière de dette. Une conviction qu'il a ancrée au plus profond de lui-même, puisque ça fait plus de 20 ans qu'il parle sur ce sujet et qu'il le défend. Je crois qu'on peut lui reconnaître en tout cas cette constance. La difficulté est de se faire entendre, des oppositions, et non en ligne que l'élection présidentielle de 2027. Et non pas l'intérêt du pays, mais également par les citoyens très attachés à l'État-providence, mais souvent sans en connaître vraiment les bénéfices qu'ils en retirent. Je passe les différents sujets comme l'éducation gratuite, la santé et les retraites payées en partie par la dette. Voilà. Donc on parle de bilan en l'occurrence, mais après avoir entendu par les différents commentateurs politiques certaines oppositions qui ne s'étaient rien passées pendant ces 9 mois, certains ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, donc là c'est le PM. Et il faut reconnaître qu'un certain nombre de textes importants ont été votés. Et puisque je suis un ancien parlementaire, j'ai fait le point. Et pour en citer quelques-uns, bien sûr, la loi de finances 2025, qui était déjà un écueil majeur à passer, contrairement à Barnier. La loi d'orientation agricole, qui est réclamée à corps et à cri par les agriculteurs et interrompue par la chute du gouvernement précédent. La loi visant à réduire et encadrer les frais bancaires pour les successions. C'est d'ailleurs un sujet actuellement. On parle de taxer plus ou moins les successions. La loi visant à convertir les centrales à charbon. On est sur l'écologie. Et une loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements. C'est aussi un sujet actuel. On sait beaucoup de nos compatriotes ont des difficultés à se loger. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais au total, en fait, près de 60 projets de loi et propositions de loi sur ces 9 mois ont été définitivement votés. Je ne parle pas de toutes celles qui sont en cours.
Laurent, je peux vous poser une question.
Oui.
Vous mettez au crédit de François Bayrou le fait qu'il y ait eu son projet de loi,
oui.
Mais est-ce vraiment à mettre au crédit dans la mesure où il y a un sujet d'inflation législative? Le fait qu'il y ait trop de lois votées ne peut pas être mis au crédit d'un gouvernement. L'inflation normative est un vrai problème.
Bien
et
sûr.
Là, vous le tirez, ou tu le tires, on se tutoie, tu le tires comme un avantage. Vraiment, l'avantage se retourne.
Hein. Oui, alors l'avantage peut se retourner, mais moi je le vois comme je l'ai vécu au sein de l'hémicycle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une proposition de loi, en tout cas j'ai parlé de certains sujets qui sont quand même très importants, je n'ai pas parlé de toutes les propositions de loi qui n'ont pas été votées négativement et qui sont des sujets souvent annexes ou qui sont quelquefois, tu as raison, des propositions de loi d'un député qui veut porter une loi qui porte son nom. Quoi, voilà. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas tout à fait le cas. Et de toute façon, face à une assemblée morcelée où il n'y a pas de majorité, déjà arriver à faire au moins faire voter les projets de loi qui sont donc les projets de loi du gouvernement, je pense que c'est une victoire. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, c'était aussi pour dire que non seulement il ne s'est pas rien passé, mais aussi on parle beaucoup des blocages des institutions. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de blocage.
Sur la nomination de Sébastien Lecornu, donc pour le remplacer à Matignon.
Alors, la question, est-ce qu'il aurait subi le même sort que François Bayrou? On peut le craindre, si, mais en tout cas, je pense que tous les gens raisonnables ne l'espèrent pas.
Vous réjouissez tout de même que c'est lui qui remplace François Bayrou? Même si, évidemment, vous êtes triste que
non,
le président de votre parti
je me réjouis pas. Après,
la scène.
Il ne fait pas partie des gens que je connaissais particulièrement, parce que je n'ai pas travaillé sur les sujets défense. J'ai croisé beaucoup d'autres ministres avec lesquels j'avais des affinités. Lui, c'est parce que je ne l'ai pas tellement croisé. Il est assez secret aussi. On voit que quand il a travaillé sur la défense,
en tout cas, oui.
Une réputation assez secrète. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que qu'on aime ou pas sa nomination, il aurait pu avoir une nomination peut-être d'une personnalité de gauche, hein, ça pouvait s'envisager. Au-delà de tout ça, c'est que une dissolution ou la chute d'un gouvernement, c'est plusieurs milliards d'euros perdus par le pays. Donc bon, on ne peut pas se réjouir de la chute d'un gouvernement, même si les gens se disent ben, il faut que le gouvernement tombe, il faut qu'il y ait une dissolution.
En tout cas, on ne peut pas se réjouir d'une instabilité.
Non, oui,
Et il faut savoir que, juste pour vous donner une idée, la censure du gouvernement Barnier a coûté 12 milliards à la France. Bon, voilà. Et donc l'instabilité que les oppositions essayent de continuer d'installer va coûter cher et le taux d'intérêt de la dette française va continuer à augmenter. Et donc ça, c'est pas très bon. Donc on espère qu'un gouvernement, quel qu'il soit, je veux dire même à la limite, on aurait eu même un gouvernement raisonnable de gauche, on n'a pas à souhaiter la chute du gouvernement, on a à souhaiter que la France s'en sorte.
Et qu'il réussisse. Thibault Casal, alors vous, de l'autre côté de l'échiquier, quel bilan vous tirez des quasi 9 mois de François Bayrou à la fonction de Premier ministre, et qu'est-ce que vous pensez de Sébastien Lecornu?
Ben, on a quand même l'impression que ces derniers mois, on est quand même sur la fin de règne du macronisme, et François Bayrou le symbolisait bien, et Monsieur Lecornu va le symboliser sûrement encore mieux. François Bayrou, ben, 9 mois durant lequel, certes, beaucoup de projets. Et par contre, d'autres sur lesquels je serais vraiment pas d'accord, notamment la loi du plomb. Et on a vu, heureusement, la mobilisation qu'il y a eu derrière, une mobilisation historique, hein, par exemple, contre cette loi. Mais avec François Bayrou, on a aussi eu une énumération d'affaires, mensonges devant la représentation nationale. On a aussi eu le spectacle avec le raté dès le début de son mandat à Pau, avec la situation à Mayotte qui demandait peut-être une autre façon de réagir à ce moment-là.
Est-ce qu'on peut discuter sur ce point?
Si vous voulez. Allez-y.
Mayotte, non, mais sans trop vous interrompre, mais c'est juste vraiment pour le besoin et le plaisir à la discussion. Effectivement, on l'a perçu, ce déplacement à Pau, à la mairie de Pau, pour un conseil municipal, comme un raté. Mais alors, je m'inscris totalement en faux, parce que ce sont les bobos parisiens qui ne voient que la politique à travers le prisme national de la politique nationale et de la présidentielle. Moi, qu'un responsable public se déplace pour présider un conseil municipal, ben, c'est pas quelque chose de neutre, quelque chose d'important, et moi, je le mettrais plutôt à son crédit. C'est pas forcément raté.
Il aurait été maire dans les Yvelines, on lui aurait rien dit.
Moi, ce que je pense surtout, c'est que M. Bayrou aurait dû démissionner de son poste de maire de Pau, comme par exemple l'a fait M. Rebsamen. avant, même si c'était avant.
Mais Thibault, les circonstances politiques font qu'il ne pouvait pas démissionner, puisqu'il était en sursis.
Et mais fatalement, même en étant en sursis, François Bayrou, à l'âge qu'il a, tout à l'heure, on a utilisé le mot de constance pour parler de François Bayrou et de ses combats. Un de ses combats, ça a quand même toujours été aussi le non-cumul des mandats. Mais bon, ça, du coup, il l'a oublié une fois qu'il a été Premier ministre.
Laurent, tu confirmes, c'est le non-cumul du mandat pour Bayrou ? J'avoue que j'ai
C'est quelque chose qu'il a porté à la campagne présidentielle de 2007 et de 2012.
On a eu des premiers ministres qui étaient également le maire du Havre et qui n'ont pas démissionné.
Ah non, mais je suis d'accord. Mais on m'aurait posé la question, j'aurais répondu la même chose.
Oui, mais on n'a entendu personne à l'époque.
Donc, là, pour le coup, M. Bayrou aurait dû démissionner de son rôle de maire de Pau. Et peut-être que son invité sera raté au tout début de son mandat.
Alors, sur sa politique, ensuite, en tant que Premier ministre.
Après, on peut passer sur le tout de ces 9 mois. En tout cas, ça a montré quelque chose. Il a essayé de sortir de la façon la plus propre avec laquelle il pouvait sortir. Et ça, c'est à son crédit, pour le coup, d'avoir suscité un vote de confiance. Ce que n'ont pas fait ses prédécesseurs. Parce qu'il savait très bien ce qui se passerait, c'est sûr. Mais au moins, il s'est évité la censure de Barnier, même si, bon, le résultat, après, est le même. Mais le vrai problème, bon, parce que ce qui s'est passé pendant 9 mois, on pourrait revenir dessus, mais ce qui est intéressant, c'est peut-être plutôt ce qui nous attend. Et moi, je trouve quand même très, très choquant le fait que Emmanuel Macron nomme le plus fidèle des fidèles du macronisme, c'est-à-dire quelqu'un qui est là depuis 2017, qui symbolise parfaitement la politique du président de la République. Et pourtant, il y a un an, il y a eu des élections législatives, et le résultat de ces élections législatives, c'est quand même que la majorité des Français ont dit non à la politique du président de la République. C'est lui qui a voulu cette dissolution. Donc si on parle d'instabilité, je pense pas que ce soit les oppositions qui installent de l'instabilité dans le pays. Je pense plutôt que c'est le président de la République qui l'a instauré lui-même en faisant ce choix, alors qu'il avait une majorité, alors qu'il arrivait à passer ses textes. Parce que, par exemple, moi, j'ai combattu la réforme des retraites. Bon, elle a pu passer par 49-3. Le gouvernement d'Elisabeth Borne n'a pas été censuré derrière. C'était juste, mais ça n'a pas été le cas. Bon, en faisant cette dissolution, ça amène la situation actuelle. Donc, le responsable actuellement de cette instabilité politique, c'est Emmanuel Macron. Et je trouve que de nommer un fidèle du macronisme, alors qu'il y a un an, la majorité des Français ont dit qu'ils n'en voulaient plus, je trouve que c'est une façon... C'est comme si on a, en fait, plutôt que d'avoir un président de la République, on a un chef de clan qui se met avec les siens et qui ne veut pas reconnaître ce qui s'est passé il y a un an.
Ça, comme un peu le dernier carré de fidèles qui défendent la forteresse assiégée.
Mais qu'est-ce que vous auriez préféré comme solution, là, dans la situation aujourd'hui ?
Moi, ce que j'aurais préféré comme solution, c'est déjà, il y a un an, le président de la République avait nommé Lucie Castet il y a un an. Imaginons le gouvernement de Lucie Castet serait tombé. Il serait tombé, d'accord. Mais au moins, on n'aurait pas eu ce déni de démocratie. Et ensuite, il aurait pu avoir les mains libres pour dire, écoutez, ça ne marche pas. Voilà, on a mis la gauche au pouvoir, ça ne marche pas, d'accord. Du coup, on va essayer autre chose. Et je pense que d'ailleurs, le Parti Socialiste aurait réagi du coup différemment. Parce qu'ils auraient acté le fait que ça ne marche pas. Et du coup, il faut trouver d'autres solutions. Alors que là, avec le cornu, on va retomber dans le même problème.
Oui, alors ça y est, on va en parler.
Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à dire qu'Emmanuel Macron... mais je ne suis pas le seul quand je dis qu'il n'y a pas que la gauche qui dit ça. On a un Dominique de Villepin qui, par exemple, a dit lui aussi que Emmanuel Macron aurait dû nommer une personnalité de la gauche. Et je pense d'ailleurs que s'il avait nommé une personnalité type Bernard Cazeneuve ou autre, on aurait été très embêtés à gauche... Parce que certains auraient dû faire un choix qu'ils n'ont pas envie de faire. Et ça aurait été vraiment compliqué.
Alors la question de savoir est-ce que Sébastien Lecornu pourrait avoir un sort différent de ceux de Michel Barnier et François Bayrou, effectivement, on va la poser. Mais maintenant, je demande à Pierre Espugaz aussi de faire un peu le bilan des 9 mois de François Bayrou à Matignon. Et puis de nous parler de ce que lui inspire la nomination de Sébastien Lecornu, qui est un ancien membre de votre parti, d'ailleurs.
Alors donc il y a deux questions lourdes qui expliquent que les deux réponses ont été logiquement longues. Donc sur la première question, le bilan de François Bayrou. Il est fatalement, j'ai envie de dire, incertain, parce qu'en démocratie, ce qui compte, c'est la légitimité. Et dès l'instant où cette légitimité, au nom des circonstances politiques que l'on connaît, est incertaine, il ne pouvait qu'être un peu bloqué pour avancer et ne pas trancher. Alors c'est vrai, Laurent a raison, malgré tout, par miracle, j'ai envie de dire, des textes ont pu être adoptés. Et je pense notamment, pardon Tu as cité des textes plutôt d'ordre social, des textes en matière de sécurité, visant le projet, le texte de loi visant à éviter le piège du narcotrafic.
Je l'avais dans la liste, mais c'était trop long.
Je pense que Gérald Darmanin a pu faire des réformes intéressantes en proposant, parce qu'il y a une mexicanisation de notre société, une mexicanisation des prisons, et donc le fait de créer un centre de rétention. Je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, il fallait faire quelque chose. Et donc, des choses ont pu être faites. Mais c'est toujours compliqué à partir du moment où on n'a pas une légitimité qui est claire, qui est évidente, d'avancer comme un gouvernement voudrait avancer. Donc, c'est pas à mettre au débit en tant que tel ou personnellement de François Bayrou, c'est à mettre au débit d'un gouvernement qui n'a pas de légitimité. Voilà, c'est en cela que c'était nécessairement embarrassant et l'issue était écrite. Donc voilà, je suis pas du tout anti-Bayrou. Alors, il a posé le bon problème de la dette, d'ailleurs, sur la fin, il y a un vrai sujet. Simplement, faute de légitimité, il n'était pas en mesure de résoudre ce vrai sujet qu'il a posé dans les bons termes. Voilà. Donc, bilan incertain, hein, je ne peux pas dire autre chose.
Je comprends, c'est que vous trouvez qu'il a fait ce qu'il a pu.
C'est ça.
Vu les conditions dans lesquelles il se trouvait.
Il ne pouvait pas faire autrement, et quiconque n'aurait pas pu faire autrement. Et effectivement, je ne vois pas que Sébastien Lecornu fasse autrement. La difficulté, mais c'est comme ça, là aussi, dans notre pays, nous n'avons pas la culture de la coalition. Comme on peut l'avoir en Belgique, on peut l'avoir en Espagne, on peut l'avoir en Italie, comme on peut l'avoir en Allemagne. On ne l'a pas.
C'est le régime qui le veut aussi.
On est toujours... Et les mentalités, pardon, hein, aussi. Hein, c'est avant tout les acteurs qui font le jeu politique. Hein, c'est pas... J'ai un maître à penser qui s'appelait le doyen Vedel. Le doyen Vedel disait, on peut changer tant qu'on veut le règlement de la FIFA, ce sont les joueurs de foot qui font le jeu football. Et c'est pareil pour la Constitution, c'est pareil pour les règles du jeu, on peut les changer tant qu'on veut, à l'arrivée, si nos mentalités ne sont pas armées, ne sont pas prêtes à une coalition, eh ben on ne fera pas de coalition. Et c'est vrai que j'ai pas du tout envie, si j'étais au gouvernement, de travailler avec des LFI, par exemple. J'ai pas forcément envie de travailler, disons-le, avec certains socialistes, avec François Rebsamen, oui, mais avec Olivier Faure qui se jette dans les bras de LFI, non. Et la réciproque est vraie. Bon, voilà, donc psychologiquement, on n'est pas armé, et je vois pas comment Sébastien Lecornu la donne n'a rigoureusement pas changé. Alors, en réalité, je suis assez d'accord avec la lecture de Thibault, dans le sens où, si j'avais été Emmanuel Macron, à un moment donné, ça ne marche pas à droite. Ben oui, soyons vicieux jusqu'au bout, faisons en sorte de nommer quelqu'un à gauche, on verra que ça ne marche pas, et on aura fait la preuve par A plus B que la gauche ne marche pas. Voilà ce que j'aurais fait. Donc là...
La nomination de Sébastien Lecornu...
Non mais il m'est sympathique.
Oui, je ne parle pas de la personne.
Voilà, il est politiquement d'un profil qui est le mien, et il me convient tout à fait. Je n'ai pas de débat. Mais sauf que les circonstances politiques n'ayant pas changé, je crains, et je le crains, je veux dire pourquoi, pour deux raisons, je le crains. Je crains qu'une nouvelle dissolution qui faille procéder à une nouvelle dissolution. Et pourquoi je le crains? Pour une raison nationale, parce qu'il y a le risque, on le disait en préambule, que le Rassemblement national ait cette majorité relative ou absolue, et ça, c'est pas rigolo. Et, tenez-vous bien, je le crains au niveau local, avec un risque, évidemment, je suis candidat, en tout cas candidat à la candidature à une élection municipale, d'une nationalisation du scrutin municipal. Pire encore, s'il y a des élections législatives, qu'on nous case le scrutin législatif le jour même de l'élection municipale. Moi qui suis un Girondin et qui défend des enjeux municipaux, j'ai peur que notre voix ne soit pas entendue, et ça serait pour moi une catastrophe d'être privé d'un débat démocratique municipal.
Oui, je suis d'accord.
Alors, est-ce que sur cet aspect de possible dissolution, si on considère que ça va être compliqué pour Sébastien Lecornu d'échapper au sort de Michel Barnier et de François Bayrou, est-ce qu'on peut éviter une dissolution à un moment donné? Parce que si le blocage politique est total, il va bien falloir en sortir. Laurent Esquenet-Gox.
La dissolution va être l'arme institutionnelle si effectivement les gouvernements sortent les uns après les autres. Donc là, effectivement, on le disait tout à l'heure, ou en tout cas je crois que c'est Thibault qui le disait, c'est peut-être la dernière cartouche du président, ou l'avant-dernière, puisqu'il en reste encore une après.
La démission.
Oui.
Donc, alors on va en parler après, parce que ça c'est
donc, une voilà, donc, clair.
Possibilité après, dont apparemment il ne veut pas entendre parler.
Oui, bien sûr, pour l'instant. Donc, mais bon, si on se met dans l'hypothèse où le gouvernement, le Cornu saute, on fait quoi après? Peut-être encore essayer de mettre la gauche et ça saute après. Je veux dire, il n'y aura pas beaucoup d'autres solutions. Et ceci dit, pour un résultat qui ne va pas forcément être meilleur, après ça dépend de quel côté on se place, mais... quoi qu'il en soit, théoriquement, enfin moi c'est comme ça que je le vois, pas avec une majorité absolue, donc on sera dans les mêmes problèmes et on va se prolonger jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, sauf à ce qu'il constate que... Au bout du compte, eh ben, c'est lui le problème.
Laurent, pour prolonger ton propos, et c'est peut-être pas le politique qui intervient, c'est plutôt le professeur de droit constitutionnel. C'est la même situation que la crise du 16 mai 1877. Macmahon, président de la République, un conflit avec la Chambre, avec le leader républicain Gambetta. Il dissout la Chambre. On renvoie à la Chambre des députés la même majorité. Le fameux mot de Gambetta est de dire il faut que Macmahon se démette ou se soumette. Et je crains qu'on soit dans ce cas de figure-là. Oui, retour à la case départ 1877.
Thibaut Casal, quel scénario vous imaginez?
Il y en a plusieurs. C'est sûr que je vois mal Sébastien Lecornu tenir. Mais le problème, c'est que je vois mal le président de la République nommer une personnalité de gauche, comme on l'a dit. Parce que je pense que sinon, il l'aurait déjà fait. Je pense qu'il ne le veut pas, et je pense aussi savoir pourquoi il n'en veut pas. Parce que, certes, ce gouvernement pourrait tomber, mais avant qu'il tombe, il pourrait faire des choses.
Oui.
Et le président de la République ne veut pas entendre parler de l'abrogation de la réforme des retraites, par exemple, ne veut pas de la taxe Zucman, enfin, de plein de choses comme ça, qui... mettrait certains à l'Assemblée, notamment le RN, devant leurs responsabilités. Parce que le RN, par exemple, qui parle des retraites, qui a dit qu'il était contre la réforme des retraites, etc. Et puis, bon, pendant la campagne, on avait Bardella qui savait plus nous expliquer si c'était 66 ans, 64 ans, 62 ans. Bon, le naufrage Bardella qui, pour le coup, a permis aussi que l'extrême droite ne gagne pas la dernière fois. Parce que c'est vrai que, certes, il y a eu le barrage républicain, mais il faut aussi voir quand même que le niveau de Jordan Bardella durant cette campagne a aidé le camp républicain à gagner ces élections. Donc, s'il nomme la gauche, certes, je pense que forcément, ça ne tiendra pas, mais une gauche qui avance 149-3 avec des propositions populaires, ça va quand même être compliqué d'expliquer à la population pourquoi on enlève la gauche au pouvoir. Bon, après, je pense que oui, forcément, la droite et l'extrême droite censureront ou... arriveront à démettre le gouvernement de gauche. Et donc après, il y a une dissolution. Et s'il y a une dissolution, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui, à part peut-être l'extrême droite, qui est une force politique qui est capable d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée. D'ailleurs, je fais tout et j'espère que mes camarades de gauche entendront le message d'unité parce qu'il y a un vrai risque à ce que l'extrême droite soit au pouvoir. Et j'ai très peur d'une dissolution au moment des municipales, comme Pierre l'expliquait.
Et puis on avance effectivement dans le temps, là, je sais
et,
pas.
Et oui, et se retrouver, arriver, et là encore, le danger de l'extrême droite.
En tout cas, les campagnes se superposent.
Et qui poserait le danger de l'extrême droite, nous par exemple, dans notre belle ville de Toulouse, où on a eu la chance quand même la dernière fois en 2020 d'avoir une extrême droite qui fait que 4%, ce qui est quand même un des scores les plus bas de France.
Le RN et ceux qui sont.
Mélanger ces deux scrutins ferait qu'à Toulouse, le RN pourrait faire plus de 10%.
Clairement.
Oui, bien sûr.
Et ça, c'est quelque chose de dangereux. Parce que moi, je ne souhaite pas qu'à Toulouse, on ait des élus RN au Capitole. Et ce que ferait Emmanuel Macron en faisant cette dissolution, c'est que non seulement il pourrait amener l'extrême droite au pouvoir, mais pas qu'au niveau national. Aussi localement, les mettre en responsabilité et... terminer au final le processus de dédiabolisation que met en place Marine Le Pen depuis qu'elle est en place. Donc moi j'ai très très peur de ce que va faire le président de la République. Après, il reste aussi une solution. Hein. Quand il y a un an, la majorité des Français ont dit qu'ils n'étaient plus d'accord avec la politique du président de la République. Enfin, on a quand même eu un président, le général de Gaulle, qui a démissionné suite à un référendum. On lui a dit non.
Mais l'ont-ils dit qu'ils n'étaient plus d'accord avec la politique du président de la République ? C'est pas si clair, justement.
Ah, les Français ont bien expliqué, là, qu'ils étaient en désaccord avec la politique du président de la République.
Il n'y a pas de majorité.
On a trois tiers, donc.
On a trois tiers.
Oui, mais il y a une majorité. Il y a une majorité contre lui.
C'est pas lisible.
Et d'ailleurs, les 364 voix contre
mais
la confiance de M. Bayrou...
Pour des raisons vraiment différentes, alors. Hein.
Ah oui, non, mais pour des raisons différentes. Je dis pas qu'on est tous d'accord, encore heureux, parce que vous m'entendrez jamais dire que je serais d'accord avec se placer à l'extrême droite de l'Assemblée.
Il y a aussi des sondages d'opinion aujourd'hui qui montrent une cote de popularité qui est un peu en chute libre, quand même.
Il fait tout pour qu'elle soit en chute libre. Hein, ouais. Entre les dénis de démocratie, les petites phrases et cette façon jupitérienne de gouverner dans une époque où, à mon avis, ce que les gens... les gens n'attendent pas ça. Les gens peut-être attendaient ça en 1958 avec le général de Gaulle dans la situation dans laquelle ils étaient. Peut-être qu'ils attendaient ça à l'époque où François Mitterrand était président de la République. Mais aujourd'hui, on ne peut plus... On ne peut plus présider de cette façon-là.
Je ne partage pas.
Je pense que le pouvoir,
non, mais c'est une question de méthodologie. C'est une question de méthodologie. Le pouvoir doit être incarné, doit être exercé. Et sinon, c'est
Il y a une façon de l'incarner, d'exercer.
Non, non, mais et donc dès l'instant où moi je trouve ça ne me pose aucun problème que la Ve République confère des pouvoirs importants du fait de sa légitimité au suffrage universel au président de la République. Et donc un exercice jupitérien n'est pas nécessairement un problème. On souffre plus d'impuissance publique que de puissance publique.
Gardons quand même en tête, même si je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un scénario qui n'est pas totalement improbable, mais si Emmanuel Macron devait démissionner sous la pression, plus aucun président ne sera légitime en suivant. C'est-à-dire qu'au moins de mouvement de rue, on demandera le départ des présidents. Et donc, c'est là, comme tu le disais, s'il doit incarner quelque chose, ce sera difficile de l'incarner par la suite.
Alors, Henri Guénaud s'était exprimé là-dessus. On ne peut pas le soupçonner de ne pas être un gaulliste fidèle à l'esprit de la cinquième. Et pour lui, la démission d'Emmanuel Macron serait ce qu'il a qualifié de catastrophe institutionnelle. Monsieur le juriste,
oui, c'est vrai qu'on a
Pierre Espiegas, on pourrait parler de catastrophe institutionnelle si Emmanuel Macron devait partir sous la contrainte.
Oui, oui, non, mais moi aussi, je ne me réjouis pas. Il a été élu pour 5 ans, il doit aller au bout. Mais une fois de plus, on arrive à la difficulté dans une situation de blocage là, oui, de blocage politique. Et c'est le dernier fusible. Que voulez-vous que je vous dise? S'il n'y a aucun gouvernement qui tient en place, à un moment donné, comme on dit, il va falloir passer au niveau dessus. Hein. Non, mais je ne souhaite pas la démission d'Emmanuel Macron, une fois de plus. Moi, je vous dis, ma solution aurait été de nommer quelqu'un à gauche pour qu'on montre l'impuissance identique de quelqu'un à gauche à gouverner. Voilà.
À gouverner sans majorité. La question aujourd'hui, c'est ça. Donc après, la logique, ce serait, bon, il n'y a pas de majorité, on n'arrive pas à ce qu'un gouvernement puisse tenir plus de quelques mois, on dissout, sauf que si après dissolution, on se retrouve de nouveau avec une assemblée où il n'y a pas plus de majorité, même si celle-ci de relative à gauche devient relative à droite.
Mais c'est là où Emmanuel Macron, enfin, il s'est mis tout seul dans cette situation. Et le problème, c'est qu'il y a un an, les Français lui ont montré qu'il voulait une cohabitation. Il n'accepte pas la cohabitation. Bon, et encore avec Michel Barnier, vu que LR, durant les législatives, n'était pas, en tout cas pas dans toutes les circonscriptions, avec les macronistes. Bon, il pouvait y avoir un semblant de cohabitation, même si on savait bien que c'était pas le cas. Mais de ne pas vouloir cette cohabitation-là fait que s'il redissout et qu'on en arrive au même résultat, il ne reste plus que la démission derrière. Et ce ne sera pas à cause d'un mouvement social et de la rue, ce sera à cause de lui. Donc, si une nouvelle élection présidentielle, la personne qui sera élue sera légitime, de toute façon, parce qu'elle aura été élue par le peuple. Donc,
il y aura un précédent quand même.
Ce sera là.
Et oui, je vous dis, c'est le précédent, c'est bien celui de McMahon et Gambetta. Et ça m'embête un peu parce que moi, je ne suis pas un fanat des 3e et 4e républiques, précisément en raison de cette instabilité ministérielle, en raison de cette incapacité du Parlement à légiférer. Ça me pose un problème. Moi, je pense que la 5e République est une bonne chose. Je sais qu'on pense différemment à Génération. J'avais longtemps, souvent des discussions avec Pierre Cohen sur ce sujet, qui est un partisan forcené d'une 6e République. Je pense précisément le contraire. Et heureusement, précisément, que notre constitution aujourd'hui a permis finalement à un gouvernement sans majorité ou à des gouvernements sans majorité de gouverner, parce que c'est vrai que des textes ont pu être adoptés et pas des textes mineurs. Ce retour à la 3e République me fait un peu peur, c'est vrai, enfin, me fait très peur.
Pour revenir à Sébastien Lecornu, parce qu'on l'a peut-être enterré un peu rapidement, est-ce que vous pensez qu'il va, comme il l'a annoncé, mener une politique de rupture? Il a parlé de politique de rupture. Alors, est-ce que c'est l'homme de la situation pour mener une politique de rupture qui aurait eu lieu avec un gouvernement de gauche?
C'était surprenant quand même. Hein, je trouvais que c'était une sacrée pique à Bayrou. Hein, Bayrou a souri, il n'a pas montré de vexation, de sentiment de vexation, mais je trouvais que c'était vexant en réalité.
Ça pourrait être quoi une politique de rupture?
C'est vrai qu'on ne peut pas insulter l'avenir, mais il faut avoir les moyens d'une politique de rupture. Et deux, il faut avoir le profil, le caractère. Et on ne peut pas disputer des choses à M. Lecornu avant qu'il n'exerce le pouvoir, mais on pense pas immédiatement à lui, quoi, pour la rupture.
Non, sans doute. Et puis, je pense que dans le mot rupture, il y avait autre chose, en fait, en sous-jacent. Et on sait que le président de la République n'a pas tellement apprécié l'indépendance d'esprit de François Bayrou, mais même de s'être imposé comme Premier ministre. On sait le jour où il est allé le voir, il a imposé sa vision des choses. Et donc dans le duo, ou dans le couple presque Lecornu-Macron, Macron-Lecornu dans l'autre sens, peut-être que ça convenait pas tellement cette indépendance d'esprit et d'être capable de dire aussi des choses que ne pensait pas forcément Emmanuel Macron. Et donc peut-être que pour lui, la rupture, c'est de revenir à quelque chose de plus solidaire avec le président de la République. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris.
Une politique de rupture, si on veut la mener, il va falloir qu'il trouve une majorité.
Il faut regarder de quel côté.
Vers le parti socialiste ou vers le RN.
Il faut du côté du RN, donc,
Le problème, c'est qu'avec son profil,
je le vois mal faire une politique de rupture ouverte vers le Parti socialiste. Donc, qu'est-ce qu'il entend par là? Alors, si c'est une politique de rupture en ouverture plutôt vers l'extrême droite, attention. Moi, c'est ce dont j'ai peur en soi.
Ça n'a pas fonctionné avec Barnier.
Oui, ça n'a pas fonctionné avec Barnier, mais peut-être il va donner encore plus de gages que ne l'avait fait Barnier. Parce que le mot rupture est fort quand même. Et le profil de Sébastien Lecornu ne me laisse pas entendre une rupture vers la gauche.
On aura peut-être une surprise quand même, parce que si on regarde, aujourd'hui, avec l'agenda juridique de Marine Le Pen, elle a tout intérêt à ce qu'il y ait une dissolution, maintenant. Mmh. Parce qu'elle pourra dire, se tourner vers les juges et dire bon, c'est pas normal, voilà, etc.
Oui, c'est ça.
Alors, et puis en même temps, ça masquera le procès qui revient en appel bientôt.
Bien sûr.
Donc je vois pas comment il pourrait se tourner vers le RN, parce que c'est gazeux de ce côté-là. Donc il reste plus que la gauche, et la gauche, après il y a la gauche raisonnable et la gauche irraisonnable, et on peut pas,
Gauche raisonnable, ça c'est allié avec une gauche déraisonnable.
Tout à fait,
ça me pose un léger problème,
C'est vrai que dans le Mouvement Front Populaire, moi, j'ai pas oublié qu'il y avait le NPA dedans, ceux qui appelaient à cramer les flics.
Il y a LFI, on va pas être d'accord avec Thibault, mais.
C'est sûr, on va pas être d'accord.
Je considère que LFI, aujourd'hui, est au moins aussi dangereux que le RN.
Mais non, mais on peut pas. LFI reste dans l'arc républicain parce que ce qu'ils défendent dans leur programme, on ne peut pas dire qu'ils sont anti-républicains.
Je le pense profondément.
Non, mais par contre, moi, ce qui me fait doucement rire, c'est cette idée d'une gauche convenable et une autre qui ne le serait pas.
Ah, tout à fait. Enfin, comme il y a une droite convenable et une droite qui n'est pas.
Mais c'est comme ce que disait la droite à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, quand le Parti Socialiste était allié du Parti Communiste et qu'il y avait le programme commun, et qu'on nous expliquait que les chars rouges allaient arriver, etc. Et que les socialistes pouvaient être convenables.
En tout cas, dans la rue, je me suis rendu à la manifestation d'hier, il y avait des gens de LFI.
Avec des drapeaux palestiniens.
J'ai pas envie de travailler. Il y avait que ce sont des gens dangereux qui vont au contact à la police.
Alors, je pense pas que c'était ceux spécialement d'LFI que vous avez vu en première ligne face à la police. Ils étaient beaucoup plus loin dans le cortège.
Il y a le programme effectivement de LFI, puis après il y a les déclarations de ses dirigeants.
De temps en temps, c'est sûr que, et ça je l'ai toujours dit ici, de temps en temps, ça nous ferait énormément de bien si Jean-Luc Mélenchon décidait de partir à la retraite.
Si je vous dis que LFI,
parce que la retraite, nous, vu qu'on la défend à 60 ans, il pourrait d'ailleurs la prendre.
Si je vous dis que LFI est un parti antisémite.
Non, je ne peux pas dire que LFI est un parti antisémite.
Mais il y a de multiples déclarations de dirigeants LFI en ce sens. Je suis désolé. et qui aujourd'hui ne sont pas au RN. C'est chez LFI.
Est-ce vraiment un parti républicain? On dit que c'est la France insoumise. Moi, je dis que c'est la France soumise au tyran, à Vladimir Poutine et à Nicolas Maduro. Et là, on n'est pas vraiment dans une insoumission.
Bon, ça sera peut-être l'objet d'un autre débat dans quelques semaines. On va en rester là pour celui-ci. La prochaine échéance pour Sébastien Lecornu, c'est la constitution d'un nouveau gouvernement. Il faut commencer par là, avec qui il va devoir rapidement bâtir un budget. Je rappelle que la partie consacrée aux recettes doit être examinée à l'Assemblée nationale à partir du 14 octobre. Et donc, la semaine précédente, ça va passer en commission, donc à partir du 7. Ça va très vite arriver. Pour notre part, nous allons faire une pause d'une vingtaine de secondes dans cette émission. À tout de suite pour un second sujet.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour en direct avec mes trois invités, Thibaut Casal, Pierre Esplugas et Laurent Esquenet-Gox. Nous allons revenir maintenant sur une polémique qui a secoué le petit monde médiatico-politique et les réseaux sociaux en fin de semaine dernière. Elle est partie de la diffusion d'une vidéo captée par des journalistes du magazine L'Incorrect. On y voit dans un café les journalistes Thomas Legrand, qui écrit, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans le journal Libération et qui intervient sur France Inter, et Patrick Cohen, éditorialiste également sur France Inter et chroniqueur sur France 5. Ils sont en train de discuter avec Luc Broussy, président du Conseil national du Parti socialiste, et Pierre Jouvet, eurodéputé socialiste. Dans ce document, on entend notamment Thomas Legrand qui dit « Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi ». Depuis la publication de cette vidéo, les deux journalistes sont accusés de collusion avec le Parti socialiste et Thomas Legrand a même été suspendu de l'antenne à titre conservatoire par la direction de France Inter. Comment avez-vous réagi, tous les trois, en découvrant ce document, d'une part, par rapport à la manière dont il a été réalisé à l'insu des deux mises en cause, et d'autre part, sur le fond, eu égard aux propos que l'on y entend dans la bouche de journalistes officiant sur le service public. La parole est à Pierre Esplugas, vous qui êtes un élu, mais aussi un juriste.
Et un ex-journaliste, j'ai travaillé pendant 7 ans sur Télé Toulouse. Donc je me suis pas mal intéressé à la manière d'exercer le métier de journaliste. Sur la forme, sur la manière dont ce document a été dévoilé, on peut regretter qu'on soit dans l'époque dans laquelle on est. Mais elle est ainsi. Et tout ce qui est privé peut devenir public. On peut regretter que dans un restaurant où vous prenez un café avec des copains, avec des collègues, avec des collaborateurs, ça se retrouve sur un réseau social. On peut le regretter, mais on n'échappera pas à ça. Et donc, Patrick Cohen et Thomas Legrand ont beau jeu de dire « cette vidéo, elle a été prise à notre insu », mais c'est notre époque qui veut ça. Et une fois qu'on a réglé ce problème-là, ben, je suis désolé, ça pose un léger problème de fond. Il y a un problème de déontologie journalistique. On ne peut pas dire, quand on est journaliste, qu'a priori, on va régler le compte à quelqu'un. C'est pas ça, un journaliste. J'ai donc travaillé à TLT. Imaginez que mes patrons à TLT voient une vidéo où on m'entend dire « Je vais régler son compte à Martin Malvy. Je vais régler son compte à Jean-Luc Moudenc », qui étaient des personnes que j'interviewais régulièrement à l'époque. Ils m'auraient viré de suite. Et ils auraient eu raison. Donc ça pose un problème de déontologie journalistique et renforcé par un problème lié à la neutralité que l'on attend du service public. C'est pas n'importe quel média, France Inter. Un journaliste d'un média, voyons, orienté, aidez-moi, un média orienté...
C'est pas du Figaro, CNews. De CNews.
Face à un édito. Très bien. Mais on est, une fois de plus, dans une radio pas comme une autre. Donc ça pose un problème que ce que l'on savait déjà quand même un peu nous éclabousse à la figure. Et donc oui, bien sûr, que pour moi, c'est un motif de licenciement de Thomas Legrand.
Et de Patrick Cohen ?
Là, c'est une vraie difficulté, parce que Patrick Cohen, dans cette vidéo, ne dit pas un mot. Donc licencier quelqu'un quand on ne dit pas un mot, c'est une vraie difficulté. Néanmoins...
Il ne dit bon consent,
il est un peu mis dans le même sac.
Dans
la discussion, ça sent un peu le complot. Je pardonne de le dire un peu comme ça. Ça sent un peu le complot de dire à leurs amis socialistes, on va s'occuper d'une de vos adversaires. Ça pose une vraie difficulté pour Patrick Cohen aussi.
Alors Patrick Cohen s'est plaint. Il a avancé l'argument en disant que, en fait, ce sont des propos sortis de leur contexte qui ont été coupés. Ce sont une suite d'extraits qui nous font dire des choses que nous ne pensons pas ou que nous n'allons pas faire vraiment.
Éric, un dernier mot. Comme beaucoup peut-être, je regarde C'est à vous. Et évidemment, lundi soir, je voulais regarder C'est à vous. Et Patrick Cohen, sauvé par le gong, la démission de François Bayrou, qui fait que entre Thomas Legrand, merci Patrick François. Cohen, et la démission de François Bayrou, il y a une hiérarchie de l'information qui a fait que, évidemment, on n'a pas parlé de cela dans C'est à vous. Mais je l'attends au tournant quand même. J'espère bien qu'un
jour. Si on parle des deux.
Voilà. Alors, Thibaut Casal, je ne sais pas si je donne la parole à la défense, j'en sais rien.
Oh non.
Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, vous, mais bon, comme tout le monde. Bon, on vous a mis ça sous le nez et aux oreilles. Donc comment vous avez réagi dans un premier temps ?
Mais c'est pas parce qu'ils seraient de gauche que je vais forcément les défendre. Ce que dit Thomas Legrand est grave. Et pas que ce qu'il dit sur Dati. Il y a aussi tout le passage sur Glucksmann qui est très intéressant,
oui,
quand même.
Absolument.
Où on explique au PS comment monter la candidature Glucksmann, quoi. Mmh. Et ce qui fait que Thomas Legrand réussit à faire quelque chose d'assez fantastique, c'est qu'il a réussi à énerver à la fois la droite et à la fois une partie de la gauche.
Ah oui, ça, donc c'est très durement.
C'est,
hein,
oui, mais c'est, et c'est pas le seul parce que je comprends qu'on soit énervé quand on entend, mais des deux côtés, hein, ce qu'il dit sur Dati, c'est pas tolérable, et ce qu'il dit et du coup sous-entend qu'ils font aussi, parce que du coup ça sous-entend que dans le service public, il sort de cette question de neutralité pour essayer de faire en sorte que Madame Dati ne gagne pas
qui fomente
la mairie
des stratégies électorales pour faire élire.
Oui, non, mais c'est on se croirait dans une scène de Baron Noir, de House of Cards, et on est là en train de voir ça. Et comme le disait Pierre, on peut pas se cacher derrière le fait que ce soit une conversation privée.
Oui.
Parce que ce qui est dit dedans. Du coup, sort du simple cadre où Thomas Legrand pourrait être ami avec Pierre Jouvet, à côté de qui il était député européen et responsable au Parti socialiste. Ils peuvent être copains, ils peuvent discuter, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce qui est dit. Ce qui est dit à l'intérieur, ce n'est pas tolérable. Et donc, cette collusion entre ces journalistes et ces hommes politiques pose problème. Et il pose problème parce que c'est le service public. Encore une fois, je vais prendre l'exemple de CNews. Quand on a des journalistes sur CNews qui font l'apologie du Rassemblement National ou de Reconquête,
ce n'est pas le service public.
Mais voilà, ce n'est pas le service public. Donc c'est différent. Non, mais c'est là où je veux dire que c'est différent.
On voit que c'est pas CNews.
Mais si, mais sur CNews, encore là, la dernière fois, le responsable de leur des éditos politiques qui a dit que Jean-Luc Mélenchon était la plus grande menace pour la République française depuis 1945.
C'est une vérité, oui.
Non, ben non, on peut pas dire ça.
C'est vrai, bien sûr.
On peut pas dire ça. Donc l'OAS, par exemple, était moins un danger pour la République. On peut pas rentrer sur ces questions.
On peut le dire, on peut ne pas être d'accord, c'est autre chose. Mais on a le droit de le dire.
C'est pour ça qu'on va pas me dire que CNews ne fait pas l'apologie du Rassemblement National. Juste voir dans les thèses qu'ils défendent le nombre de fois où le mot immigration est cité dans cette chaîne sur l'année, c'est hallucinant.
Et en même temps, c'est un vrai sujet, non ?
C'est un sujet qu'on n'est pas forcément obligé de traiter du côté du Rassemblement National. Par exemple, moi, j'adore écouter Benoît Hamon, qui est responsable de l'ONG Singa, en parler. Et pour le coup, là, on parle d'immigration, mais peut-être pas de la même façon. Enfin, même, on n'en parle pas de la même façon. Bon, en tout cas, pour revenir sur Thomas Legrand et Patrick Cohen, il semblerait normal que Thomas Legrand soit démis. Et par contre, là où je rejoins aussi ce que disait Pierre, c'est que Patrick Cohen, c'est très compliqué en fait de lui reprocher quelque chose, parce que même s'il dit rien, Thomas Legrand dit oui, on fait tout avec Patrick, d'accord, mais bon, lui il est là, alors c'est sûr il dit rien, donc qui ne dit mot consent, j'aime pas trop cette expression parce que ça peut très vite quand même se retourner sur d'autres sujets.
Est-ce qu'il fait une boue, on sait pas. Bon,
très honnêtement, ça paraît compliqué. Après, je pense que ça doit peut-être plus venir maintenant de lui-même. Et peut-être à lui de se dire, écoutez, je dois me remettre en retrait.
Tu n'approuves pas la position de Patrick Cohen.
Non, j'approuve pas. Et puis surtout, qui vient de dire que c'est une conversation privée, etc., tout ça, il serait le premier dans d'autres circonstances à dénoncer ça.
Il l'a fait.
Ce
qui est terrible aujourd'hui, c'est que tout ressort, évidemment. Hein.
Alors, c'est terrible, mais c'est très pratique.
Il y a quelques années.
C'est pratique parce que ça évite les amnésies.
Oui, tout à fait. Laurent Esquenet-Gox, vous, votre réaction quand vous avez découvert cette vidéo et les propos qui sont tenus dedans?
Bien sûr, c'est choquant. Hein. Le service de l'information ne devrait pas être politisé ou partial, et surtout comme ça, quand on a l'impression qu'il s'agit d'un complot. Honnêtement, pour avoir travaillé au sein de la commission des affaires culturelles et de l'éducation avec Rachida Dati, d'ailleurs sur une partie du projet de fusion de l'audiovisuel que j'ai combattu, je souhaite bon courage aux comploteurs, et finir en kebab. Et elle avait dit que le chien de Gabriel Attal allait finir en kebab.
Oui, je me rappelle cette saillie.
C'est pour ça que je fais
de Rachida Dati.
Et je pense que j'ai bien fait de froncer les sourcils pour que tu précises ta pensée.
Oui, ça peut être mal compris.
Merci de m'appuyer, s'il te plaît. Et en fait, je pense que l'allumette, c'est ça un peu. C'est cette volonté de fusion en marche forcée de l'audiovisuel public. Elle y est revenue à deux fois. J'étais présent une des fois et je l'ai vécu. Et c'est sans doute en partie le détonateur de ce complot, on peut le voir comme ça, puisque c'était quand même Dati qui était visé.
Sur la mairie de Paris, précisons-le, pour la mairie de Paris.
Sur le fond, tu ne trouves pas qu'il y a trop de chaînes de services publics?
Alors, c'est une question. En tout cas, pour ce qui est de la TNT, ça pose un problème. Et d'ailleurs, moi, ce que je voulais dire, c'était que c'est quand même curieux que ce média-là, donc l'Incorrect, qui a révélé l'affaire, c'est un média qui est très proche de l'extrême droite, voire même très très proche. Il est proche surtout de Marion Maréchal.
C'est Marion Maréchal, à la base, qui
voilà. Et donc, certains d'ailleurs l'accusent d'avoir diffusé cette vidéo pour alimenter, bien évidemment, une politique. Et on se voit que tout de suite, Marine Le Pen réagit, surréagit et demande la privatisation du service public. Sachant que on ne peut pas privatiser le service public pour deux raisons. D'abord, il disparaîtrait totalement. Et ensuite, parce que les chaînes privées n'en veulent pas. Parce que les chaînes privées, elles vivent de la manne de la publicité. Et que si cette publicité doit être partagée entre davantage d'acteurs, eh bien, tout le monde va mourir.
Alors, bon, on va élargir un peu le débat qui prolonge hein, la question précédente et le cas Cohen-Legrand. Est-ce qu'il y a en effet un problème quant à la non-neutralité et au manque de pluralisme des opinions parmi les journalistes qui officient dans les médias publics, problème qui nécessiterait une enquête parlementaire? Ben, il va y en avoir une, justement, comme le demandent de nombreux élus de droite. Est-ce qu'il faut aller jusque-là, Pierre Esplugas? Il faut vraiment mettre les choses à plat?
Ce n'est pas une enquête parlementaire qui va résoudre le problème. Le sujet n'est pas là. Le sujet que...
Je précise aussi que mesdames Ernotte et Veil, respectivement, qui dirigent donc Radio France pour Sybil Veil et France Télévisions pour Delphine Ernotte, vont être auditionnées par l'ARCOM aussi.
Parce que ce qui ressort des collaborateurs de Delphine Ernotte ou de Sybil Veil, c'est qu'elles sont entourées de trotskistes. Hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est de notoriété publique. Donc il y a vraiment un état d'esprit qui est orienté et qui pose problème. Sincèrement, moi, je sais plus quel est, peut-être Laurent, tu pourras m'aider, ou Thibault aussi, c'est peut-être, c'est François Hollande, je crois, qui a changé la loi, qui était revenu sur la position de Nicolas Sarkozy sur la nomination des présidents des sociétés d'audiovisuelles. C'est-à-dire que je partage assez la position de Nicolas Sarkozy, qui consiste à dire, bon, c'est très simple, c'est l'État qui est actionnaire, et en tant que responsable de l'État actionnaire, je nomme les présidents de sociétés de télévision. Et François Hollande, estimant, ça se c'est une thèse, hein, que la liberté de communication n'étant pas une liberté comme une autre, eh bien, ça va être une autorité indépendante, l'ARCOM, qui nomme les présidents. Bon, à l'arrivée, je trouve que le résultat n'est pas très satisfaisant en termes d'indépendance. Donc, autant que les choses soient plus claires. Voilà.
Mais alors, comment on fait que les choses soient plus claires?
Une enquête ne suffit pas. En tout cas, Mme Ernotte et Mme Veil, je ne suis pas sûr, soient les bonnes personnes.
Les bonnes personnes.
Pour faire en sorte qu'il y ait une vraie indépendance, parce que bon, le sujet récurrent en France Inter, c'est le sujet des humoristes. Alors on peut être humoriste, pas de problème, mais des humoristes constamment de gauche, ça fait des dégâts, quoi. La démocratie du ricanement me gonfle, franchement. C'est une des raisons qui fait que j'écoute pas France Inter et que je préfère CNews.
On vous a entendu. Thibaut Casal, vous...
Le problème, c'est que les humoristes, ils se le sont malgré eux sur CNews.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un manque de pluralisme sur les médias du service public? Ou est-ce que vous trouvez que c'est exagéré de dire
ça? Non, mais il y a un manque de pluralisme, mais il pouvait aussi exister avant, en fait, au temps de, justement, de Nicolas Sarkozy aussi. Je ne vais pas remonter jusque-là, mais... il y a quand même un truc qui m'a fait tiquer, le terme trotskiste. Je pense pas que Thomas Legrand, qui défende une candidature de Glucksmann, puisse être...
Je parlais pas de Thomas Legrand, je parlais des collaborateurs de la direction de Radio France.
Je préfère le préciser quand même, parce que on pourrait croire du coup que les deux compères qui nous amènent ce débat sont...
Il n'y aurait que des trotskistes.
Preuve en est que non, parce que...
Au niveau de la direction, je le redis.
Il peut y avoir un vrai manque de pluralisme et ça pose de plus en plus des questions, moi, notamment la question de Léa Salamé aux 20h de France 2.
C'est un vrai sujet.
Et là, je reviens sur ce que disait Thomas Legrand.
Resoulevé.
Et surtout, je vois avec ce que dit Thomas Legrand, qui fait campagne pour Glucksmann. Et à Salamé,
aurait-on imaginé une présentatrice avec un compagnon de droite maintenu à l'antenne?
Non, ça
n'a pas souvent existé.
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé.
Il n'y a que
des ex-compagnons.
Alors autant, et c'est dommage parce que Anne-Sophie Lapix était très intéressante, mais elle a cru que pour pour se maintenir, il fallait attaquer forcément les hommes politiques, etc. Et ça l'a desservi, je pense. Mais sa façon de faire du journalisme, alors que pour le coup, je pense que c'est une bien meilleure présentatrice du 20h que Léa Salamé.
Non, mais il y a un exemple. Béatrice Schoenberg.
Schoenberg, oui, qui était avec Borloo.
Oui. Présentait le 20h.
Oui.
C'est Borloo, oui. Ministre, c'est
vrai.
Terminado.
Oui, oui.
Elle est sortie du 20h.
Elle était partie d'elle-même, plus ou moins, je crois que.
Oui, mais pourquoi
pas.
Alors
ça, juste deux mots là-dessus. Raphaël Glucksmann a dit qu'il était content. Pour Léa Salamé, qu'il en était fier, etc. Mais que s'il était candidat à la présidentielle, ça poserait un problème. Alors, ce qui est de, ce qui est quand même souvent dommage.
Ça pose déjà un problème.
Je suis d'accord, mais ça pose déjà problème. Mais
ce qui est embêtant, la sainte élection présidentielle.
Ce qui est embêtant, encore une fois, c'est que comme pour l'exemple Borloo, c'est que c'est du coup, c'est encore, et puis c'est encore la femme qui doit démissionner de son boulot par rapport à l'homme. Bon, ça c'est un autre débat à la rigueur. La solution pour être simple, il suffirait que quelques semaines soit
candidat. Si on nomme des hommes qui présentent le 20h et non pas Madame Lapix et non pas Madame Salamé, eh bien la question se posera pour la femme. Mais il se trouve qu'on nomme des femmes au 20h, donc on ne va pas non plus dire en plus « Ah, c'est encore un coup des hommes ».
Non, mais je ne dis pas ça. Mais malheureusement, ça veut dire que ça va être le même schéma qui va se représenter.
Laurent Esquenegox.
Oui, alors pour revenir sur des faits, parce que des fois aussi on peut avoir une perception suivant le positionnement politique qu'on a, c'est un peu ça aussi.
Oui,
la difficulté.
Il faut
comment on fait pour
essayer nous-mêmes d'être pluraliste,
totalement neutre. Je crois que c'est impossible. Par contre, il y a quand même plusieurs études et analyses récentes qui soulignent un déséquilibre dans l'audiovisuel public. Notamment, je l'ai là sur mes notes, une étude de l'Institut Thomas More de 2024 qui montre une surreprésentation des invités de gauche sur les chaînes publiques France 2, France 5, France Info par rapport à la droite. Alors, notamment par rapport à la droite radicale, mais ceci dit, ils sont élus, donc on pourrait même considérer que.
Il y a des gens qui votent pour eux.
Comme l'a dit Nicolas Sarkozy, qui sont dans la
République. La population,
ça, voilà.
Ben oui,
et, donc, et que leur temps de parole est très inférieur à la représentation électorale. Donc voilà, donc il y a quand même des faits. Et c'est des faits qui ont été soulignés par des études très, très sérieuses.
Oui, chiffrés. Donc effectivement, bon, ces questions se posent. J'imagine que. Aujourd'hui, les enquêtes qui ont été lancées et les auditions qui vont avoir lieu par l'ARCOM, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que de tout ça, il sortira autre chose? J'en sais rien. Il y aura aussi qui va être le prochain ministre de la Culture, de l'audiovisuel. Est-ce que ce sera toujours Rachida Dati? C'est
des postes où il y a le monde.
Il risque de s'imposer.
Non, mais moi, je trouve que j'ai déjà rencontré dans ma vie Rachida Dati et... Elle est spéciale quand même, dans son caractère.
Elle a un sacré caractère, je confirme.
Oui, parce que tout à l'heure,
elle peut être raide, hein, elle peut faire des mamours, des mimiques sympas à l'antenne, et être raide avec ses collaborateurs, ses collègues.
Raide avec les parlementaires.
Et voilà,
avec les journalistes aussi, méprisante. Hein, l'épisode de juillet.
Bon. Mais je reviens au sujet avant la pause. Une fois de plus, ce que je n'aime pas dans la période actuelle, c'est l'instabilité. Donc même si je ne suis pas un fan absolu de Rachida Dati, ça me paraîtrait pas si mal qu'il y ait au nom de la stabilité. Après, on est d'accord ou pas d'accord, et c'est la politique, mais il y a le poison aujourd'hui, l'instabilité qui pose problème.
C'est l'arrivée des ministres qui découvrent le portefeuille et qui doivent s'adapter. Et le temps qu'ils s'adaptent, ils sont déjà partis.
C'est ça,
en
c'est
ce
un problème.
Moment, oui, en ce moment, le temps d'adaptation est court.
Ça arrange aussi la droite pour la mairie de Paris, si elle reste.
Bon. Oui, mais c'est un sujet annexe. Hein.
Oui, peut-être
alors,
pas si annexe.
Nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt les prochains développements de cette affaire, les auditions à l'ARCOM et celles qui auront lieu à la commission parlementaire. Il nous reste pour une fois quelques minutes pour vos coups de gueule ou vos coups de cœur du moment. Bah, je suis sûr que Thibaut Casal a quelque chose à partager avec nous. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule.
Alors, j'ai beaucoup hésité. Alors, en plus, en me disant qu'on n'aurait peut-être pas le temps, vu les sujets qu'on avait, puis au final, on a été très efficace. Mais si on n'avait pas beaucoup de temps, j'aurais parlé de la victoire du Stade Toulousain qui m'a fait énormément plaisir. Mais je vais plutôt parler d'hier.
Tu veux le vol.
Je vais plutôt parler d'hier. Bah, comme ça, je te laisse le stade. Et de la formidable mobilisation de la jeunesse à Toulouse. J'ai rarement vu une manifestation avec autant de jeunes. Moi-même, quand j'étais à l'université, que la fac était bloquée, etc., tout ça, j'ai pas vu autant de jeunes dans la rue. Hier, à Toulouse, c'était criant, vraiment. Et j'ai adoré voir la jeunesse de France se mobiliser. Là où c'était pas le cas pour les retraites, c'était pas le cas même quand on attaquait l'université avec la loi ORE, etc. Donc, un vrai coup de cœur.
Vous voyez un regain de conscience politique chez les jeunes, c'est ce que vous en déduisez?
J'espère.
Pierre Esplugas.
Mon coup de cœur, alors effectivement, la reprise du Top 14, c'est la rentrée, voilà. Voilà. C'est la rentrée que je décline en deux temps. Un, c'est la reprise du Top 14 et la victoire Stadtouzen m'a fait très plaisir avec un beau jeu. Et deux, c'est la rentrée pour moi à l'université. J'ai fait cours hier et j'étais très heureux de retrouver mes étudiants et de faire cours. C'était un bonheur renouvelé. Quant à mon coup de gueule, ben, précisant, c'est le même en sens inverse que Thibaut. C'est-à-dire que j'aime bien me rendre dans les manifestations. Je me suis rendu hier à la manifestation et j'ai vu une situation que j'ai trouvée qui m'a fait, qui m'a catastrophé parce que je voyais des gens, beaucoup de marginaux, hein, des gens qui étaient prêts à en découdre avec la police et ça n'a pas loupé. Je trouve fou que dans ce pays comme la France, chaque manifestation, il y ait des mecs habillés de noir, qui arrivent habillés de noir, qui arrivent gantés, qui arrivent masqués et qui sont là uniquement pour casser le mobilier urbain, casser du flic et casser du bourgeois et en finir avec le capitalisme. Bon, ben, c'est pas ma conception de la société et de la démocratie. Et je suis souvent atterré donc, de ce que je vois dans ces manifestations. J'ai parfois dû fuir hein, des manifestations parce que j'ai une petite notoriété. Parfois, on me reconnaît. Oui. Et le jour où il y a eu sur la place du Capitole Moudenc t'es mort, justement, je passais à ce moment-là en sortant de mon bureau parce que c'était place du Capitole. Et j'ai bien vu que j'étais en danger physique. Oui. Le poids de l'extrême gauche à Toulouse est vraiment assez révoltant.
Alors, il y a une chose que je remarque tout de même, c'est que s'il y a une institution à Toulouse qui réconcilie la droite et la gauche, Pierre Esplugas et Thibaut Casal, c'est le Stade toulousain. Réjouissons-nous de ça au moins. Laurent Esquenegos, un coup de cœur ou un coup de gueule?
J'aurais pu dire la même chose, je suis le Stade de près aussi, mais bon, c'est déjà été dit. Je réfléchissais à ce que je pouvais avoir comme coup de cœur, du coup je vais faire un peu d'humour. Et donc le coup de cœur, c'est je me réjouis de retrouver tous mes amis du Modem à la fin du mois à Lille sur la Sorgue, puis cette année ça ne sera pas à Guidel, la rentrée. L'université de rentrée du Modem, et donc on va retrouver un François Bayrou libre.
Ah oui, et alors il y a des sujets qui sont sur la table, après oui. Qu'ils se soient retirés donc, de Matignon, bah, un peu parce qu'il l'a cherché, si on peut dire, en demandant la confiance. Quels sont les sujets que vous allez mettre sur la table à cette université
Modem ? Tous les sujets sont évoqués, mais bien évidemment, ce qui se profile au lointain, et non pas si lointain que ça, c'est les municipales.
Oui. Municipal, donc là vous allez en parler au niveau national, mais aussi dans les grandes métropoles.
Également, il va y avoir des réunions des chefs de file. Le sujet principal, ça va être ça. Puis après, l'après Bayrou et aussi, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui suivent pour la France.
Ouais. Vous, il y a des choses à venir, la génération. Parce qu'il nous reste encore un peu de temps. Donc
on part demain matin. Avec les camarades de génération et notamment aussi Isabelle Hardy, Pierre Cohen, on va à la fête de l'humanité.
Le rendez-vous
comme chaque année. Et donc oui, on a un stand génération et pour la première année, on fait un stand commun génération l'après. C'est-à-dire Clémentine Autain, Corbière, tous ces anciens insoumis qui ont quitté le mouvement en manque de démocratie et aussi Debout, créé par François Ruffin. Et donc on fait un stand commun tous les trois dans le cadre d'un rapprochement qu'on fait nationalement.
Et Pierre Esplugas, là c'est la rentrée municipale pour vous aussi.
Clairement, nous avons là en ligne de mire les élections municipales. Bien nous sûr. Sommes en ce moment vraiment dans l'organisation de la campagne. On fait en sorte d'être très présent auprès des Toulousains. Pendant que d'autres manifestent, nous on était auprès des Toulousains qui travaillent.
Cette 199e mêlée de l'info est terminée. Merci à beaucoup, à tous les trois, d'y avoir participé. Je remercie également Yannick Galupini qui a réalisé cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci à tous nos auditeurs de nous rester fidèles en cette période de rentrée. Rendez-vous jeudi prochain pour la 200e. À bientôt. We'll be right back.